Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Boris Johnson ne veut pas entendre parler d'un report du Brexit, plutôt être mort, a lancé ce soir le Premier ministre britannique, désavoué par son Parlement, le reportage de Marie-Pierre Véraud. En Turquie, le président Erdogan menace l'Europe d'un nouvel afflux de migrants. Il exige des Occidentaux une aide pour créer une zone de sécurité en Syrie. Les explications à venir d'Anand Loer à Istanbul. Une première judiciaire en France, une cour criminelle, celle du Calvados, a condamné un homme à 2 ans de prison pour une tentative de viol. Cette nouvelle juridiction doit soulager les cours d'assises. Florence Turm a suivi l'audience à Caen. 10 000 euros le mètre carré en moyenne à Paris. Le marché de l'immobilier parisien franchit un cap historique à la hausse. Nous en parlerons avec notre invité Brice Cardy, président du réseau d'agences immobilières L'Adresse. Malgré ses échecs au Parlement britannique, Boris Johnson persiste et signe. En déplacement ce soir dans le Yorkshire, le Premier ministre refuse un report du Brexit au-delà de la date qu'il a fixée le 31 octobre. Hier, les parlementaires avaient voté une motion l'obligeant à négocier avec Bruxelles un report au 31 janvier. Ils avaient aussi rejeté les législatives anticipées réclamées par Boris Johnson. La correspondance de Marie-Pierre Véraud.
Il avait choisi le Yorkshire, une terre de Brexiteurs, pour ce premier déplacement en province depuis la crise aux communes et une visite à des élèves policiers auxquels il promet de nouveaux investissements. Mais nul n'est dupe. Boris Johnson vient de lancer sa campagne pour les législatives anticipées que va demander le gouvernement. Et d'ailleurs, le sujet brûlant ne tarde pas à s'inviter. Alors qu'une journaliste demande au Premier ministre s'il peut promettre qu'il ne négociera pas un nouveau report du Brexit à Bruxelles, la réponse fuse.
I'd rather be dead in a ditch. Je préférais crever dans un fossé. Cela nous coûte 1 milliard de livres par mois. Ça ne mène à rien. Quel est l'intérêt d'un nouveau report? Cela n'a absolument aucun sens. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que ce pays quitte l'Union européenne le 31 octobre. Et si certains pensent vraiment que ce pays doit rester dans l'Union européenne après le 31, que l'on s'en remette au peuple afin qu'il en décide. Mon boulot, c'est de nous faire sortir le 31 octobre et c'est ce que nous allons faire.
Mais les termes, aussi choquants soient-ils, peuvent être effacés par une image. Une image, celle d'une policière qui s'affaisse juste derrière le Premier ministre et ce dernier qui continue son discours comme si de rien n'était. L'incident a enflammé les réseaux sociaux. L'opposition l'accuse de manquer de sollicitude au bas mot. Décidément, après la défection de son frère, ce ne fut pas une très bonne journée pour le Premier ministre.
Marie-Pierre Véraud, et effectivement, Boris Johnson a été fragilisé aujourd'hui par la démission de son frère secrétaire d'État aux universités, Joe Johnson, quitte à la fois le gouvernement et le Parlement. Sur Twitter, il affirme placer l'intérêt national avant la loyauté familiale. En 2016, Joe Johnson avait voté contre le Brexit et c'est un partisan d'un deuxième référendum. Une nouvelle fois, Recep Tayyip Erdogan utilise la crise migratoire pour faire pression sur les Occidentaux. Le président turc veut créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, une zone qui permettrait aux 3,5 millions de réfugiés syriens présents en Turquie de retourner dans leur pays. Erdogan exige l'aide des Occidentaux pour son projet, sinon il ouvrira aux migrants les portes de sa frontière avec l'Union européenne. Les précisions d'Anand Loer à Istanbul.
C'est avec les Américains qu'Ankara négocie actuellement les contours d'une zone dite de sécurité à la frontière turco-syrienne, mais ce sont les Européens qui sont les premiers concernés par l'ultimatum du président turc. Recep Tayyip Erdogan voudrait renvoyer dans cette zone au moins 1 million des plus de 3,5 millions de Syriens réfugiés en Turquie. Si les Occidentaux ne l'y aident pas, Ankara menace donc une fois de plus de remettre en cause l'accord migratoire signé avec l'Europe en mars 2016. Cet accord prévoyait entre autres que la Turquie bloque les réfugiés aux frontières européennes, ce qui est le cas depuis plus de 3 ans.
Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, nous serons contraints d'ouvrir les portes. Donc, soit vous nous soutenez, soit, désolé de vous le dire, mais nous avons des limites. Est-ce que nous devons être les seuls à supporter cette charge? Je l'affirme ici, le monde, à commencer par l'Union européenne, n'a pas partagé avec nous la charge des réfugiés syriens comme il aurait dû le faire. Et c'est pour obtenir ce soutien que nous pourrions être contraints d'agir ainsi.
Au-delà du retour des réfugiés en Syrie, cette zone de sécurité aurait pour objectif d'empêcher les forces kurdes syriennes de s'établir durablement aux frontières de la Turquie. Et là encore, Recep Tayyip Erdogan lance un ultimatum. Si la zone promise par les États-Unis n'est pas créée d'ici la fin du mois, l'armée turque pourrait lancer une nouvelle offensive en Syrie.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie. C'est une première pour la justice française. Une cour criminelle, en l'occurrence celle de Caen, a condamné aujourd'hui un homme à 2 ans de prison pour une tentative de viol. La cour criminelle est une nouvelle juridiction qui juge des crimes sans jury populaire. Les peines encourues sont comprises entre 15 et 20 ans de réclusion. Alors s'agit-il d'une cour d'assises au rabais, comme l'affirment les détracteurs de ces juridictions? Florence Turm a suivi ce premier procès au tribunal de Caen.
3 hommes et une femme en robe noire ont pris place de part et d'autre de la présidente de la cour. Les autres sièges sont restés vides derrière eux, tout comme les bancs du public. 4 magistrats professionnels pour remplacer les jurés populaires et juger cette affaire de tentative de viol, passible de 15 ans de réclusion criminelle. Affaire un peu singulière, il est vrai, les faits remontent à 2007, pas de témoins, pas de partie civile non plus. La plaignante est décédée accidentellement. En 2012, elle n'a jamais pu être confrontée à son agresseur présumé. L'homme qui comparait est libre aujourd'hui, un agent de sécurité de 36 ans, carrure massive mais voix calme, n'a été identifié que plus tard grâce à l'ADN retrouvé sous les ongles de la jeune femme. Lui nie les accusations portées contre lui, évoque une relation consentie. Elle est allée porter plainte, certificat médical à l'appui dès le lendemain. Pas d'expert à la barre, mais la présidente prend le temps d'examiner la personnalité de l'accusé. Interrogatoire incisif qui souligne de multiples contradictions. Les autres magistrats questionnent également, comme peuvent le faire des jurés ordinaires. La grande différence, c'est que tous aujourd'hui disposent du dossier, contrairement à une cour d'assises centrée sur le principe de l'oralité des débats. Dossier qu'ils ont emporté avec eux pour délibérer, là où les jurés ne peuvent disposer que de notes prises durant les débats, à l'appui de leur intime conviction. Cet article de loi empreint de solennité qui résonne toujours en assises et que l'on n'a pas entendu tout à l'heure, avant que cette première cour criminelle ne se retire pour délibérer.
Florence Turm depuis la cour criminelle du Calvados. Aigle Azur annule tous ses vols à partir de demain soir. La compagnie aérienne est en redressement judiciaire depuis lundi et les repreneurs potentiels ont jusqu'à lundi prochain 9 septembre pour déposer une offre de reprise. Dans un premier temps, seule une partie des vols avait été annulée, mais cette fois c'est donc toute l'activité de la compagnie qui s'arrêtera demain. Aigle Azur est spécialisée dans les liaisons vers l'Algérie. Elle emploie 1150 salariés. Les consultations sur la future réforme des retraites sont entrées aujourd'hui dans leur deuxième phase. Jusqu'à demain, les partenaires sociaux vont se succéder à Matignon. La plupart des syndicats contestent cette retraite, alors qu'Emmanuel Macron a semblé vouloir calmer le jeu en suggérant de ne pas toucher à l'âge de départ. Compte rendu de cette première journée de concertation avec vous, Grégoire Lecalot.
Première étape, trouver un calendrier et une méthode de discussion. C'est le premier objet de ces rencontres. Mais les partenaires sociaux ont aussi abordé le fond. FO, premier reçu, a rappelé son opposition au principe même de la réforme, un régime de retraite universel par points. Son secrétaire général, Yves Verrier.
Le système unique par points, ce sera une réforme paramétrique permanente. Les gouvernements auront tout loisir de jouer sur les paramètres. Et donc, nous ferons en sorte d'empêcher que ce système unique par points se mette en place.
Les syndicats n'ont pas la même position sur les questions clés. L'ont rappelé, la CFDT est la seule centrale favorable au régime universel, mais sous condition, Laurent Berger.
On a dit ce qui était nos points d'accord, mais aussi nos points de désaccord et nos lignes rouges, notamment la pénibilité, évidemment, la possibilité d'avoir des retraites progressives, le minimum de pension. Objectivement, on n'a pas senti une attitude fermée.
Arriver à un accord sera donc compliqué, mais il ne s'agit que d'une concertation et non d'une négociation, comme l'a rappelé à chacun le Premier ministre.
Grégoire Lecalot. Le marché immobilier parisien a franchi aujourd'hui un cap historique. 10 000 euros le mètre carré en moyenne pour acheter un logement dans la capitale. À Paris, en 10 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté de 60% contre 10% sur l'ensemble du territoire français. On en parle avec l'invité de ce journal, Brice Cardy, président du réseau d'agences immobilières L'Adresse. Bonsoir.
Bonsoir.
Brice Cardy, comment vous expliquez cette différence entre le marché parisien et le marché immobilier en région?
Alors d'abord, en effet, je vous confirme, les chiffres. En effet, les chiffres montés par les agences parisiennes de l'adresse concernant notamment l'activité récente du mois de juillet et du mois d'août laissent apparaître des prix aujourd'hui, des compromis signés au-delà du cap fatidique des 10 000 euros le mètre carré. Alors l'explication, d'abord, c'est l'attrait de notre capital qui ne se dément pas. Et puis ensuite, c'est, rappelons-le, c'est des taux d'intérêt particulièrement attractifs qui montrent clairement que dès le moment où on le peut, il est plus intéressant d'acheter que de louer. On constate également sur les agences parisiennes du réseau, c'est au premier semestre de l'année 2019 qu'on a comparé au premier semestre de l'année 2018. Une chose importante à dire, c'est la rareté de l'offre. En effet, sur les agences, on a rentré sur ce premier semestre 20% de moins de mandats à comparer sur la même période l'an dernier.
Alors justement, pourquoi cette pénurie de logements à vendre à Paris ?
Tout simplement parce que les personnes aujourd'hui, à part si elles ont une obligation par rapport à une situation personnelle, un enfant, une séparation ou autre, aujourd'hui, quand vous êtes parisien dans l'Inde, vous bougez pas, vous restez chez vous. Et qu'en gros, dès le moment où les gens ne sont pas dans une mutation obligatoire, les gens restent chez eux. On a au niveau des agences l'adresse au niveau national, on a un délai moyen de vente qui est aux alentours de 90 jours, à comparer à Paris, où on est descendu en dessous du cap des 60 jours. Donc aujourd'hui, dès le moment où vous avez une offre, vous avez de toute façon un indice de tension qui est très important entre l'offre et la demande.
Brice Cardi, quel est le profil moyen de l'acheteur à Paris ?
Le profil d'acheteur moyen à Paris, il est de plus en plus étranger. Et le profil moyen aujourd'hui, c'est un couple de cadres supérieurs qui gagne plus de 10 000 euros par mois.
Les gens qui achètent à Paris achètent un logement pour l'occuper ou bien pour le louer ?
Aujourd'hui, le bailleur privé, comme on l'entend, c'est-à-dire une personne physique, je ne vais pas vous dire qu'il n'existe plus, mais presque. C'est-à-dire entre les contraintes qu'on vient de nous remettre sur le tapis avec l'encadrement des loyers, le risque, parce qu'il existe, de ne pas pouvoir éventuellement avoir à un moment donné le bon acquittement de son loyer, aujourd'hui le bailleur privé, il n'existe quasiment plus. Hein. La personne qui achète à Paris, c'est pour occuper. Hein. Soit pour occuper, soit pour avoir, et là on revient, alors là on n'est plus dans la catégorie d'un couple cadre supérieur qui gagne plus de 10 000 euros par mois, on est dans une catégorie, on est encore dans une autre sphère, et là on a des gens en effet qui ont un pied-à-terre à Paris parce que l'attrait de la capitale, etc. Mais l'investissement pur et dur aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à investir à Paris intramuros. Comme on l'a connu préalablement, lors de la première mise en place du dispositif, où on s'est aperçu quoi ? Quelque chose que j'ai vécu à titre personnel, enfin dans des agences dont je suis propriétaire, on s'est retrouvé avec des rapports locatifs plus intéressants sur certaines villes limitrophes en petite couronne que Paris intramuros.
Et l'achat d'un bien à Paris, c'est aussi parfois pour faire de la location saisonnière type Airbnb ?
Ça, c'est également aussi un vrai problème parce que d'un côté, la mairie a pris des dispositions et assez drastiques, à savoir l'immatriculation obligatoire pour pouvoir justement avoir le droit de pouvoir louer un logement en location saisonnière à Paris. Je peux vous assurer que sans avoir une boule de cristal, aujourd'hui, je pense que 2/3 des annonces qui sont diffusées ne respectent pas cette règle. Il faut savoir, les gens ne le savent pas, mais pour pouvoir faire de la location saisonnière, vous n'avez pas 36 façons de le faire. Soit vous le faites parce que vous êtes propriétaire et auquel cas vous êtes propriétaire en résidence principale et en vous engageant à vous immatriculer et en vous engageant à louer votre bien dans une durée inférieure ou égale à 120 jours par an. La deuxième façon d'avoir le droit de le faire, c'est uniquement si le bien a une destination qui est la commercialité. Et pour avoir la commercialité sur un logement, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites partie des rares qui l'ont pour des raisons historiques de l'immeuble en étage, parce que c'était préalablement, une activité commerciale qui avait été déclarée pratiquement à la construction de l'immeuble. Donc autant vous dire qu'à Paris, il faut remonter quelques centaines d'années en arrière. Soit sinon, c'est des logements qui étaient en rez-de-chaussée, comme beaucoup de locaux commerciaux, comme beaucoup ont eu l'intelligence de se mettre là-dessus, et auquel cas, là, vous pouvez le faire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pour détenir l'immatriculation sur le site de la mairie de Paris, ça se fait en deux clics. Hein. Et on ne vous demande pas votre pièce d'identité, on ne vous demande pas de votre taxe foncière, on ne vous demande rien.
On dit que les classes moyennes n'ont plus les moyens d'acheter à Paris, notamment les familles. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans votre réseau d'agences ?
Oui, oui, complètement. Et classe moyenne et même certaines catégories cadres supérieurs, c'est-à-dire que dès le moment où je vous disais, il y a l'obligation d'un agrandissement, c'est-à-dire généralement pour l'arrivée d'un enfant, pour une chambre supplémentaire, enfin pour une pièce supplémentaire, allez, dans 90% des cas, les gens ont tendance à justement déplacer leur acquisition et c'est ce qui fait justement ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, le report de marché, et qui sert en effet des prix qui ne cessent de monter dans certaines communes limitrophes en petite couronne.
Brice Cardi du réseau d'agences immobilières L'Adresse, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Un mot du temps demain, de la pluie sur le sud-est et notamment sur les Alpes frontalières. Sur les autres régions, le soleil devrait s'imposer avant l'arrivée d'une perturbation en soirée près de la Manche. Température minimale en baisse de 4 à 19 degrés du nord au sud. Les maximales progressent, elles, de 18 à 29 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.